enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Maintenant sera entré dans le repos. C'est un comble, hein ? Après les vacances, je vous propose d'entrer dans le repos. Dis à ton voisin, nous allons nous reposer ce matin. Nous allons nous reposer. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 1 à 3, puis 10 et 11, nous lisons. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit. Je répète, or, ils ont entendu ce message sans aucun profit. Car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos. Un peu plus loin au verset 10, car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Et un texte maintenant tiré des évangiles, un texte connu, un texte de base, un texte que nous connaissons tous absolument par cœur et que le Seigneur a mis sur mon cœur lorsque je lui demandais de quoi mes frères et mes sœurs ont-ils besoin ce matin. Eh bien, c'est Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Je pense que nous sommes dans l'un des siècles dans lesquels l'on n'a jamais autant parlé de repos. On est souvent dans une des périodes dans laquelle jamais l'on a eu autant de temps libre. On parle de loisirs, on parle de toutes sortes de choses. Nous en sommes arrivés quand même dans notre pays à ne travailler plus que 35 heures, et je ne me permettrai pas de faire de commentaires là-dessus. Suivant que vous êtes ouvrier ou patron, vous appréciez la chose différemment. Cependant, malgré nos 35 heures, malgré nos repos compensateurs, nos RTT, je crois que ça veut dire repos du travailleur tranquille. Malgré nos 5 semaines de congés payés, eh bien, la société dans laquelle nous sommes, et l'Église elle-même souvent, me paraît être extrêmement fatiguée et chargée. Je vois autour de moi des gens lassés, des gens écrasés. Certains en arrivent même à être fatigués de vivre. C'est le peintre Van Gogh qui malheureusement se suicidera. Il dira avant de se prendre la vie, « Mourir est difficile, mais vivre l'est bien plus encore. » Mourir est difficile, mais vivre l'est bien plus encore. Voilà un homme dont l'âme est chargée et fatiguée, et sa fin dramatique. J'ai le sentiment, en réfléchissant un tout petit peu, alors que j'étais devant ce message et que je le préparais, que le seul endroit de repos que nous pouvons entrevoir est le cimetière. D'ailleurs, saviez-vous que le cimetière s'appelle également le champ du repos ? C'est réjouissant, hein ? Quelle espérance ! Le champ du repos. Tous les maîtres, vous lisez, ici repose ici repose, ici repose. Ça me fait penser à l'histoire d'un homme qui était relativement fainéant, et le maire du village où il habitait, fatigué de le voir toujours couché sous le même arbre, s'est dit « je vais quand même lui proposer un petit travail tranquille ». Alors il s'est approché de lui et lui dit « dis Giorgio, j'aurai un petit travail pour toi, un travail tranquille ». Il dit « ah bon, un travail tranquille, ça existe ?» Il dit « oui, tu vas tous les matins ouvrir la porte du cimetière, tu montes l'allée, tu ouvres le robinet d'eau, tu redescends le soir, tu remontes, tu fermes le robinet d'eau, tu fermes la porte et tu as terminé ta journée ». Il dit « ça va, monsieur le maire, ça me convient bien ». Au bout de 3 jours, Giorgio est de nouveau sous son arbre. Le maire le voit et dit « hey, Giorgio, t'es pas au travail ?» Il dit « ça m'a exténué ». Il dit « comment ça, ça t'a exténué ?» Il dit « oui, monsieur le maire, tous les matins, j'ouvrais la porte. Et alors que je remontais l'allée, partout je lisais « ici repose, ici repose, ici repose, j'étais le seul à travailler, ça m'a démoralisé. » Ici repose. Faut-il attendre la mort pour espérer se reposer tout en sachant en tant que croyant que le cimetière est loin d'être la fin de tout ? Et il n'est peut-être pas l'endroit de vrai repos, mais parfois peut-être le commencement des tourments. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous considérions un peu ce que l'Écriture nous dit. J'aimerais tout d'abord distinguer 2 sortes de fatigue. Il y a bien sûr d'un côté la fatigue physique et de l'autre côté ce que nous appellerons la fatigue de l'âme ou la fatigue psychique. La fatigue physique, elle peut être une source de joie. N'avez-vous jamais remarqué, lorsque vous faites un ouvrage, lorsque vous faites un travail, même quand il est exténuant, vous êtes fatigué le soir, mais la joie du travail accompli vous donne une paix. Et la fatigue du corps va, elle, vous entraîner dans un repos profond, réparateur, des ronflements joyeux qui réjouissent le cœur de votre épouse. Elle passe la nuit à siffler à côté de vous, en espérant que vous arrêtez. J'ai un jour dormi avec le papa Jean. Essayez de dormir dans une scierie. En pleine activité, c'est à peu près la même chose. J'admire ma mère, elle mérite une médaille. Il se repose de son travail. Il est dans la paix, il est heureux. Les sportifs, très souvent, rentrent fatigués, mais heureux. C'est parfois paradoxal, vous arrivez chez eux, ils viennent de finir le jogging, ils se... Ah, je suis lessivé, hein. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien, hein. Ah bon, ça fait tellement de bien. Il y a une fatigue physique qui est excellente. Cependant, remarquez que le Dieu Tout-Puissant, lui, va inscrire dans le rythme de vie de l'homme un rythme biologique naturel dans lequel le corps humain a besoin de repos. A besoin de repos. Que fit Dieu ? Il créa la terre en 6 jours et le 7e, il se reposa. Le repos n'est pas une invention de nos sociétés. Le repos, c'est ce que Dieu a établi dès le commencement. Dès le commencement. Et bien aimé, si nous ne respectons pas ce que Dieu a établi, tôt ou tard, nous en subirons les conséquences. Regardez ce qu'il nous est dit dans Deutéronome. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras aucun ouvrage. Ma femme m'a déjà fait le linge le dimanche. Nous avons tous pu habiller la poupée Barbie avec nos habits, tellement ils avaient rétréci. Tu ne feras aucun ouvrage. J'ai le sentiment que nous prenons très à la légère ces textes. Et je vois aujourd'hui Avec surprise, les chrétiens travaillaient le dimanche comme si de rien n'était. Mon frère, ma sœur, honorer Dieu et se sanctifier, c'est honorer sa parole. Je crois qu'il y a 6 jours pour faire son œuvre et 1/7 pour se reposer. Nous avons le jour où nous nous réunissons devant Dieu pour nous reposer. Et l'après-midi, être en sa présence, en communion avec les frères et sœurs, sans nous remettre à notre ouvrage. La mauvaise herbe qui pousse dans ton jardin attendra lundi pour se faire arracher. Elle est même reconnaissante d'avoir un jour supplémentaire de vie. Le gazon ne prendra pas 1 mètre le dimanche après-midi si tu ne le tonds pas. Frères et sœurs, il y a des règles et des lois que Dieu établit et que nous devons respecter. Et il me semble qu'aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ passe avec légèreté au-dessus de ces choses-là. Je comprends qu'il y a des impératifs et je sais que parmi nous, il y a des médecins, des infirmières, il y a des personnes qui, eh bien, par leur situation professionnelle, sont amenées à agir. Dieu le sait également, mais il y a tous ceux qui pourraient s'organiser autrement et qui ne le font pas. Le jour viendra où la fatigue physique prendra le dessus. J'avais un homme en entretien, il me disait, j'ai envie de mourir, ma vie n'est que travail. Vous savez, un jour, l'épitaphe sur une tombe disait la chose suivante, le travail était sa vie. Ça, c'est digne d'un cheval de trait, mais pas d'un homme. Ne confondez pas travailler pour vivre avec vivre pour travailler. Et aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, malheureusement, il me semble que parfois, eh bien, le travail est devenu un lien. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, certains sont tellement déliés du travail qu'il faudrait peut-être prier pour eux pour qu'ils y soient un tout petit peu liés. Parce qu'alors il y a ceux qui ne sont vraiment pas liés du tout. Ils sont des Giorgio en puissance. À cela, l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, je parle par fainéantise, ne mange pas. Hello. Ah, ne me répondez pas, on risquerait de mal interpréter votre réponse. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a tous ceux qui ne peuvent plus travailler pour des raisons physiques, pour des raisons simplement de chômage et autres. Et puis il y a ceux qui sont les spécialistes de toutes les aides sociales possibles et impossibles qui leur éviteront de travailler. J'aimerais vous dire ce matin, c'est un péché. Si tu peux travailler et si tu fuis, eh bien tu pèches devant Dieu. Il y a une deuxième forme de fatigue, évidemment, qui est également physique, mais liée parfois à la maladie. Et là, j'aimerais dire que notre souci et notre fardeau en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, devait être de soutenir ceux qui sont malades. Les cellules sont là pour que si vous êtes malade au milieu d'elles, eh bien, les membres ou certains membres de la cellule puissent également vous soutenir et vous aider de manière à ce que votre maladie ne vous écrase pas. Vous aider moralement, bien sûr, spirituellement en priant pour vous, mais également pratiquement. Quand on est malade, on est parfois heureux d'avoir quelqu'un qui nous fait les courses. On est parfois heureux d'avoir un bon samaritain qui vient nous aider. Nous avons donc une responsabilité face à ceux qui physiquement sont fatigués parce qu'une maladie les ronge ou les travaille, de manière à les secourir. Et je crois que les cellules sont un endroit dans lequel j'encourage également la mise en pratique de ce qui n'est simplement que la parole de Dieu, de ce qui est biblique. Il y a une deuxième forme de fatigue, c'est celle que Jésus appellera la fatigue de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes. Et je donnerai du repos à vos âmes. Cette fatigue-là, de laquelle Jésus parle, est une fatigue morale et spirituelle. Et elle se traduit souvent par un découragement profond, par la dépression, par l'envie de ne plus rien entendre. Elle nous conduit parfois à nous replier sur nous-mêmes. Et ce matin, si le Seigneur m'a donné cette parole, c'est parce qu'au milieu de nous, certainement, des hommes et des femmes sont fatigués, sont chargés. Voyez ce qui arrive à Élie. Il nous est dit dans 1 Roi 19, versets 2 à 4, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce récit vous montre le processus qui se met en place. Tout d'abord, le découragement, une fatigue de l'âme. Que fait-il ? Il fuit. Puis il s'isole, il se sépare de son serviteur. Avez-vous remarqué que les gens qui étaient psychiquement fatigués avaient tendance à s'isoler ? Elles n'ont plus envie de parler à personne. Elles ont envie d'être seules et de ne plus rien entendre. Élie va se séparer de son serviteur, puis dans la solitude va se retirer sous un genêt. Et là, sous le genêt, nous arrivons au dernier stade. Que fait-il dans sa solitude, sous le genêt? Il demande la mort. Il ne voit plus d'issue. Il se peut ce matin que vous soyez là en vous disant « Mais il n'y a plus d'issue à ma situation. Qui pourrait encore m'aider ?» Et ce message ce matin s'adresse d'abord aux croyants. Ce n'est pas d'abord un message d'évangélisation. Non, il s'adresse aux croyants parce que je rencontre beaucoup de chrétiens fatigués. Fatigués intérieurement, sans espérance aucune. Elle se traduira également, cette fatigue, par un épuisement physique. J'avais un jour affaire à un frère. Il me disait, cette fatigue intérieure de l'âme m'a épuisé, comme brûlé intérieurement. En anglais, ils appellent ça un burn-out. Plus de force. Et cela ne venait pas d'une fatigue physique, mais c'est d'une fatigue intérieure, morale, spirituelle, qui consommera toute l'énergie même du corps. Le frère me disait, je n'avais plus qu'une envie, être couché dans mon lit, fermer les yeux, ne plus voir personne, ni n'entendre personne. À ce moment-là, vous êtes comme celui qui est en train de se noyer. J'ai eu l'occasion d'avoir, eh bien, le sentiment de me noyer. Je ne vous le souhaite pas. Nous étions en Guyane et nous nous étions fait prendre dans un courant à la mer. Vous savez, arrive un moment où le courant est tellement fort, vous luttez, vous luttez, vous luttez, et la fatigue devient telle que vous avez envie de ne plus lutter mais de vous laisser couler. Et très souvent, eh bien, des hommes et des femmes ont lutté seuls avec leurs problèmes. Ont lutté, ont lutté, ont lutté. Et peut-être aujourd'hui es-tu sur le point de dire, j'ai envie de me laisser couler. J'ai envie de dire comme Van Gogh, mourir c'est difficile, mais vivre l'est plus encore. J'ai l'impression que tout est difficile dans la vie. J'ai l'impression que tu te bats du matin au soir, du premier jour de ta naissance jusqu'au dernier jour. Quand tu es comme ça, les moindres difficultés deviennent des montagnes. Le moindre problème que tu aurais traité facilement avant devient le mont Everest. Tu ne sais plus comment l'aborder, tu ne sais plus sous quel angle, tu t'angoisses. Lorsque vous prenez la définition de l'angoisse, dans le dictionnaire Hachette, il est dit « sentiment de profonde inquiétude ». L'angoisse, c'est un sentiment de profonde inquiétude. Alors, un synonyme, c'est l'anxiété. Et médicalement, ça se traduira par des symptômes physiques tels que la tachycardie, gêne respiratoire, transpiration. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Tout d'un coup, tu as l'impression que tu n'arrives plus à respirer. Tu as le sentiment qu'il y a un camion qui est stationné sur ta poitrine. Tu ne sais plus comment t'orienter. La fatigue de l'âme te tire vers le bas et te détruit. Elle va produire différentes choses. Par exemple, la détresse intérieure. Le psalmiste David en parle dans le psaume 25. Je ne vais pas prendre tout le psaume, mais je lirai simplement cela. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Les angoisses de mon cœur, il n'a pas dit, elles diminuent. Augmente. Tire-moi, Seigneur, de ma détresse. L'angoisse, la fatigue de l'âme va vous mener parfois dans l'amertume. Avez-vous remarqué que ceux qui sont dépressifs sont extrêmement négatifs? Ils ne voient plus rien de positif. C'est comme si tu leur avais mis des lunettes rouges sur le nez. Tout est rouge. ils ne peuvent plus voir autrement. Leur jugement devient négatif. On leur raconte quelque chose même de joyeux, ils arrivent à te le rendre triste. Tout ce qu'ils touchent devient triste. Leur mari devient triste, les enfants deviennent tristes, tous ceux qui les entourent deviennent tristes. Mais mes amis, écoutez bien ce que dit l'Écriture. Job, par exemple, lorsqu'il était dans l'épreuve, lorsqu'il était atteint, bien sûr, nous citons souvent ces versets extraordinaires. L'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais il a dit d'autres choses encore, Job. Il dira, par exemple, « C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Et un peu plus loin, il dira, « Ah, je voudrais être étranglé. » Eh bien, je voudrais la mort plutôt que ses os, je les méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Voilà un homme dont l'âme est fatiguée et chargée. Dans sa lutte, dans sa souffrance morale, physique, il crie son amertume à Dieu. Et cette fatigue de l'âme nous amène souvent dans cette amertume, elle nous amène également très souvent à être négatif à propos des autres. On commence à juger, on commence à médire. Parce qu'on se dit, mais si j'en suis à ce stade-là, c'est parce que tout le monde m'a abandonné. Vous êtes dans la solitude, et cette solitude, vous la traduisez par le fait que les autres vous ont abandonné. Alors que très souvent, c'est nous-mêmes qui, eh bien, comme Élie, nous nous sommes isolés de notre serviteur, de nos amis, de nos frères, de nos sœurs. Et là, dans la solitude, eh bien, nous ne savons plus comment nous orienter. L'amertume vient. Elle se traduira par les reproches que nous faisons aux autres. Ils ne sont pas assez présents, etc. Cependant, cette attitude ne me semble pas être juste. Certains, pour calmer leur souffrance, vont jusqu'à la prise de calmants, de somnifères. Et ne pensez pas que c'est seulement les païens, les chrétiens aussi. Un jour, un homme de Dieu me disait, j'étais tellement fatigué, Samuel, tellement. Un homme qui n'habite pas en France, disait, j'étais tellement fatigué, intérieurement desséché, que le soir, quand je rentrais, je me mettais à boire. Lorsqu'il me disait ça, il m'appelait simplement au secours pour que je prie pour lui. Il y a des moments où tu as tellement, tellement bâti sur tes propres forces, où tu as tellement tout basé sur tes propres efforts que tu n'y arrives plus. Et tu te dis, mais comme Job, il vaut mieux mourir. La vie ne sert à rien. Il n'y a pas d'avenir. J'aimerais peut-être identifier avec vous quelques origines possibles entraînant la fatigue de l'âme. Je dis bien quelques-unes. Il serait impossible de les traiter ce matin toutes. Les origines peuvent être aussi diverses que votre enfance, que le cadre familial dans lequel vous avez grandi, que les parents que vous avez eus. J'ai vu des enfants qui avaient une maman dépressive, ça les a suivis. Il y a évidemment énormément de pistes possibles, mais ce matin j'aimerais en choisir l'une ou l'autre. Et j'aimerais commencer par le péché. Le péché fatigue l'âme. Le péché détruit l'âme. Le péché va être ce qui va vous ôter la force de marcher avec le Seigneur. Le péché va vous miner intérieurement. Écoutez bien, David l'expérimentera. Le roi David fera ce merveilleux psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fantastique. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Voilà ce que le psalmiste dit. Mais entre-temps, il y a une grosse chute. Entre-temps, il y a un échec. Entre-temps, il est sur une terrasse. Il aperçoit une belle femme qui se baigne. Et là, la convoitise vient. Le désir de posséder la femme d'un autre vient. Il fait venir Bathsheba, couche avec elle. Et à partir de ce moment-là, c'est la dégringolade. Extérieurement, on ne voyait rien. David continuait à être un bon roi. Extérieurement, personne ne savait ce qui se passait. Mais intérieurement, écoutez ce qu'il dit, lui. Mes dernières forces, au psaume 32, s'épuisaient en plainte quotidienne, car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi, et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Où est-il dans ce texte, l'homme qui nous dit, il restaure mon âme? Où est-il dans ce texte l'homme qui nous disait avec force « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais où est-il ce chrétien que j'ai vu arriver il y a quelques années, rempli de joie et de ferveur pour le Seigneur, qui me disait « Mais si tous te quittent, Seigneur, je serai toujours avec toi ». Où est-il aujourd'hui ? Il est peut-être comme David, en train de se plaindre, en train de pleurer, en train d'avoir le sentiment d'être desséché intérieurement parce que le péché a fait son œuvre en lui. L'adultère vous détruit intérieurement. Le mensonge détruit, la jalousie détruit, la haine détruit. Elle vous dessèche, elle fatigue l'âme. Celui qui a de la haine au plus profond de lui-même est un homme qui s'épuise, une femme qui s'épuise, parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas se restaurer. Ça le ronge comme un cancer. Le péché nous détruit. J'ai vu des drogués. Vous savez, quand des drogués me parlaient, je parlais encore récemment avec l'un d'entre eux, il me disait, Sam, il me fallait 3000 francs par jour pour me droguer. 3000 par jour. Tu te lèves, tu penses drogue, tu manges drogue, tu respires drogue. Tu es tourmenté constamment, 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 et tu n'as plus de limite. J'entendais dernièrement une jeune femme qui permettait à un voisin de violer son enfant contre de l'argent pour acheter de la drogue. Il n'y a plus de limite. Le péché te ronge. La désobéissance à la parole de Dieu nous ronge. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple simple, le respect du jour que Dieu a fixé. Le non-respect de la parole nous ronge et nous détruit. Cependant, Jésus a donné sa vie pour que vous et moi, nous soyons déchargés. Et je vais y venir. J'aimerais identifier une autre racine, c'est l'inquiétude. Face à la maladie qui se prolonge, peut-être face à votre enfant handicapé, et vous vous dites, mais si demain moi je meurs, qui va s'occuper de lui? Et votre inquiétude, chacun peut la comprendre. Chaque père, chaque mère au monde peut comprendre ce que vous vivez. L'inquiétude par rapport au lendemain, par rapport à un licenciement, par rapport même peut-être à votre retraite, vous êtes en train de vous dire, mais qui cotisera pour nous ? L'inquiétude. Jésus dit, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? Qui ? Personne. Non seulement l'inquiétude ne rallonge pas votre vie, mais elle va l'abréger. L'inquiétude va abréger votre vie. La Bible dit dans Proverbe, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Alors ne vous inquiétez pas, je vais terminer par une bonne parole. Je ne voudrais pas que vous sortiez dépressif ce matin, mais je voudrais que vous repartiez encouragés, revivifiés. Chers amis téléspectateurs, vous allez bondir de vos sièges à la fin et dire, je sais où est la solution. Je sais où est la solution. Je sais qui est celui qui peut me restaurer. Que dit le dictionnaire de l'inquiétude ? Il est dit « état pénible par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint ». C'est-à-dire que l'événement n'est même pas encore là, vous êtes déjà malade. C'est intéressant, hein ? C'est ce qu'on appelle la foi négative. J'ai de la foi pour des événements négatifs qui ne sont pas là, je suis déjà malade comme s'ils y étaient. C'est dommage, quand ils arrivent c'est encore assez tôt. Jésus l'identifie, l'inquiétude, à quoi ? Dans Matthieu 6, il y a tout le texte 25 à 34, je ne le lirai pas entièrement, mais au verset 30, il dit « Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même comme votre confiance en lui est faible ?» Ou dans la version seconde, « gens de peu de foi ». Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Vous avez déjà vu les magasins avant les week-ends ici en France? Les fêtes de Pâques, Noël, tu as l'impression que les gens n'ont jamais mangé et ne mangeront plus jamais. Il faudrait des caddies double étage. On va avoir 3 jours où le magasin est fermé, 3 jours. Kaufji, hein? Du sucre, de la farine, du lait. Entre-temps, peut-être qu'il y a une guerre mondiale, on ne sait pas. Maintenant, permettez-moi de vous interpeller. J'ai été déçu de voir les chrétiens réagir de la même manière lors du passage à l'an 2000. Vous savez que j'ai eu des coups de fil et même des reproches. Pasteur, vous êtes un inconscient de ne pas prévenir l'Église. Ce sera la fin de tout. Les comptes vont s'arrêter, on ne pourra plus retirer d'argent. Les magasins seront vides. Et moi j'ai dit, mais celui qui nourrit le Spots dans le ciel, il peut me donner? Un serviteur de Dieu qui avait fait des réserves, il avait fait des réserves, des litres et des litres et des litres d'eau. Quand l'an 2000 avait passé, je lui ai téléphoné. Il dit, hello, c'est moi. Elle dit, ah, je suis content de t'entendre. Dis-moi aussi, dis, je t'ai acheté 30 litres de sirop. Il me dit, 30 litres de sirop? J'ai dit, ouais, pour toute la réserve de flotte que t'as fait pour l'an 2000. Ça sera moins dur à avaler. Frères et sœurs, nous lisons ce que Jésus dit, mais nous sommes de fichus incrédules. Nous lisons. Et pourtant, nous vivons dans la crainte. On surveille nos comptes en banque comme le thermomètre quand on prend la fièvre. On tremble avant l'heure. Lorsque le pape Jean a été appelé au ministère en 1970, il n'y avait pas d'église pour le soutenir, il n'y avait personne. Il a vendu son affaire, il n'y avait plus, eh bien, rien qui puisse lui assurer un avenir. Mais il a dit, parce que Jésus m'appelle, je fais le pas. Ma mère disait, mon vieux, si tu veux plus travailler, moi j'irai travailler à ta place. Ça fait plaisir, hein. Elle dit, tu crois que je vais faire la manche? Jamais. Eh bien, je peux vous dire que dans toutes ces années, nous n'avons jamais, 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 jamais manqué de rien. Je l'ai raconté mardi soir. Pour ceux qui étaient là mardi soir, c'est pas grave, vous le réécouterez. Dans les moindres détails, crois-tu que Dieu s'occupe de toi dans les moindres détails? Dimanche, il y a 15 jours, je partais en vacances et je dis à ma femme juste avant de partir, j'avais vu le sac à dos qu'elle a pris. Elle a pris un sac à dos pour une personne alors que nous sommes à 8 ou à 7. C'est vraiment un petit sac à dos. Je lui dis, Dominique, il est vraiment petit celui-là, hein. Il faudrait peut-être un plus grand. Ça, c'est ce que j'ai dit à ma femme. Je vais l'après-midi chez un frère de l'Assemblée. Et puis, au moment où j'arrive chez lui, il rentre. Et il me dit, tiens, Sam, j'étais promener le chien. Et regarde ce que j'ai trouvé. Je me suis dit, ça, c'est pour Sam. Un sac à dos isotherme, grand comme ça. En forêt, par terre. Tu en trouves, toi, tous les jours, toi, des sacs à dos isothermes en forêt, hein? Dieu pourvoit à tous tes... Hello? Mais est-ce que vous le croyez? Moi, j'en ai marre que vous me dites oui tous les dimanches et que vous trembliez comme des feuilles quand ça commence à chauffer. Si je le crois, ça doit se traduire. Je vous l'avais dit, je l'ai dit mardi aussi. Je le dis également pour les téléspectateurs, comme ça ils se rendent compte, mais Dieu s'occupe de tout. Ma femme voulait toujours un tapis. C'est drôle, les femmes, elles aiment les tapis. Moi, dès qu'elle parle de tapis, j'ai le portefeuille qui fait tourou, 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 tourou. Vous allez me dire, faut pas t'inquiéter, oui, mais... Franchement, j'étais gentil, hein, je vous ai tendu le bâton, hein. Et voilà qu'un jour, j'ai un entretien avec une confession. Et cet homme vient, confession, il m'explique qu'il travaille avec des voleurs et des cambrioleurs et que lui, il était receleur. Ah, je dis, alors, pour devenir chrétien, il faut changer, hein. Il me dit, oui, je change. Je change, pasteur, je demande pardon à Dieu, priez pour moi. Et puis, je vous ai ramené ce que j'avais encore recelé. Je dis, mais moi, je le veux pas, moi, ce que tu as recelé. Il dit, si, moi, je veux plus rien savoir, je veux une nouvelle vie. Je dis, ouais, c'est bien, mais moi, j'ai pas envie de ton ancienne vie. Il me dit, entre autres, j'ai là un tapis. Il vaut très cher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse un tapis? Moi, j'étais là dans ma pièce d'entretien avec ce tapis. Alors, je me suis dit, bon, je vais le brûler. Voilà. Puis j'ai regardé le tapis, je me suis dit, c'est dommage, hein? Meine liebe Güte. Je prends le tapis et je vais à la police. J'arrive chez le policier qui me connaissait, parce que j'ai mon chien qui traîne tout le temps, donc je suis souvent en relation avec eux. Et puis le policier me dit, bonjour monsieur Peter Schmidt, ça va bien? Je dis, oui, ça va très bien, je vous emmène un nouveau tapis pour votre bureau. Il dit, mais j'en ai rien à fiche de votre tapis, moi je le veux pas, j'ai pas de place. J'ai dit, mais attendez, je vous explique. On est sous le secret de la confession, je ne vous dirai pas ni qui, ni comment, ni quoi. Cependant, j'ai quelqu'un qui s'est confessé, qui m'a donné ce tapis qui a été dérobé à quelque part. Il dit, monsieur le pasteur, vous, je ne le veux pas. arrangez-vous, écrivez au procureur de la République. Bon, je rentre avec mon tapis sur le dos, Mouchi Mouchi rentre chez lui, et puis on fait la lettre pour le procureur. La réponse est arrivée. Je lui ai expliqué dans quel cadre les choses se sont faites. La réponse arrive. Monsieur le pasteur, je vous nomme à présent et dès ce jour officiellement gardien du tapis. Eh ben maintenant, on a un merveilleux tapis depuis des années. Apparemment, ils n'ont pas retrouvé le propriétaire. Un an ont passé et un jour, je suis le gardien du tapis. Il pourvoit à tous nos besoins. Il pourvoit à tous nos besoins. Une autre source, l'insatisfaction. L'insatisfaction. Frère, que dit l'apôtre Paul ? Paul nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Combien de chrétiens sont toujours insatisfaits ? Nous sommes dans une société de consommation et on nous pousse à la consommation. Constamment. Combien de chrétiens aujourd'hui sont endettés au stade où ils n'ont plus le choix de faire autre chose que de courir et de travailler pour rembourser ? Je crois que si nous en arrivons là, c'est parce que nous nous sommes trompés de priorité. La priorité, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça la priorité. Alors que les chrétiens, ils demandent à Dieu de les bénir. Vous savez pourquoi il doit les bénir ? Pour qu'ils aient une grande maison, de grands fauteuils, qu'ils soient à l'aise chez eux, dans leurs pantoufles, à rien faire pour le Seigneur. Ça, c'est pas l'objectif. Mon frère, ma soeur, on se trompe et le diable utilise ça pour fatiguer ton âme et te détruire. On n'est jamais content avec ce qu'on a. Ce qu'on a ne nous suffit pas. Vous connaissez ce cantique alsacien. Cantique, c'est pas un cantique. Der Hans im Schnogel hat alles, was will. Und was will, das hat nicht. Und was hat, das will nicht. Der Hans. Pas toi, hein? Im Schnogel hat alles, was will. Et c'est comme ça. Ce que j'ai, ça me plaît pas, je voudrais toujours autre chose. La voiture du voisin est toujours plus belle que la mienne. Même chez les animaux, c'est comme ça. L'herbe du champ à côté est toujours plus verte. Parfois, c'est rigolo, hein. Vous voyez parfois les vaches qui se donnent la peine pour passer. Et à côté, ils ont la même. Mais je crois qu'elle est meilleure, celle-là. C'est la nature humaine. Mais le drame au travers de tout cela, c'est que nous nous fatiguons. Mon frère, ma sœur, non seulement tu te fatigues, mais tu rates l'objectif que Dieu t'a fixé. Où prends-tu le temps pour le servir ? Élimine voir tout ce que tu as d'inutile dans ta maison pour lesquelles choses tu dois rembourser. Écoutez-moi bien. Éliminez voir tout ce qui est de trop, ce que vous n'avez pas besoin, et ce qui vous permettrait de toute manière de vivre quand même bien. Et calculez le temps que vous prend pour rembourser les choses inutiles que vous avez. Tout ce temps-là, vous pourriez le consacrer au Seigneur. Mais nous n'avons plus le temps, parce que nous avons donné, à cause de notre insatisfaction constante, de fausses priorités. La piété et le contentement sont une source de grand gain. Et évidemment, une des autres racines, je passe rapidement, c'est Satan lui-même. Il est l'accusateur de nos âmes. Il est celui qui empêche d'aller dans ma troisième voie. Nous avons identifié quelques sources, il y en a, je l'ai dit, bien sûr, bien d'autres. Mais comment recevoir le repos ? Écoutez ce que Jésus dit, c'est tellement simple. Mais c'est tellement simple. Ce matin, c'est le béaba de la parole que nous abordons. Le béaba. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus te dit ce matin, Bertrand, Jean-Claude, chacun d'entre nous individuellement, venez à moi. Aujourd'hui, nous allons partout, chez des hommes, chez des ministères, des serviteurs de Dieu. On cherche la nouvelle méthode de relation d'aide qui nous aidera enfin à trouver du repos. On cherche les nouveaux séminaires à la mode. On y court en se disant, je vais y trouver du repos. Mes amis, après bientôt 17 ans à plein temps pour le Seigneur, j'ai vu des gens courir après des séminaires, courir après ceci, courir après cela, pour en être aujourd'hui toujours encore au même point. Parfois pire encore, c'est enfermer eux-mêmes dans une tour d'ivoire de laquelle ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de l'aide des autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, eh bien, des endroits où l'on peut prendre du temps pour se mettre devant Dieu, chercher la face de Dieu. Mais le repos, vous ne le trouverez que chez lui. Il a dit, frère, sœur, moi je m'adresse à toi ce matin. Il a dit, viens à moi. Regardez bien ce que dit l'apôtre Pierre, moi je trouve ça fantastique. Jésus. Mais quand tu pries, et vous, chers amis qui nous regardez, venez à lui. Vous regardez peut-être cette émission et vous vous dites, ah, voilà l'homme qu'il nous faut, il a la solution. Moi, j'ai aucune solution pour vous, mais je vous propose la solution. Elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Les croyants le savent, c'est comme la foi. Ils disent tous, amen, amen. Mais quand la difficulté vient, ils tremblent. Ce matin, Jésus est la seule source. Jésus dit, mais quand tu pries, où est-ce que Jésus nous envoie? Eh bien, voilà ce qu'il est dit dans Matthieu 6, verset 6. Va au séminaire qui a lieu à Paris du 23 au 24 avril 2005. Et là, tu découvriras la solution, le thème étant « Venez à moi ». C'est pas ce qui est écrit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans ta chambre. Dans ta chambre, mon frère. Dans ta chambre, ma soeur. Si vous saviez le nombre de fois où j'entre dans ma chambre, je suis seul avec Dieu et on parle ensemble. Il y a des choses que je lui dis que je peux dire à personne. Même pas à mon ami qui est mon père. J'ai la grâce d'avoir un père et un ami. Mais il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Alors je vais vers celui vers qui seul je peux dire. Et je lui dis, Seigneur, moi je suis chargé, je suis fatigué. Vous savez que ça m'arrive d'être dans ma chambre et de pleurer en disant, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué de ces murmures, je suis fatigué de ces révoltes, je suis parfois comme Moïse dit, ce peuple écrase, ce peuple nous écrase. Seigneur, et là tout d'un coup, la douce voix du Seigneur vient, te donne des réponses et des solutions, tu sens sa présence et tu ressors de la chambre aussi hardi qu'un lion, comme un lion. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Sur qui? Sur lui. Je sais que c'est le béaba, je sais que vous l'avez entendu mille fois, mais pourquoi ne le faisons-nous pas? Déchargez-vous sur lui. Ton souci, c'est peut-être ta fille. Viens voir là, Dominique. Viens chez moi, oui, toi. Oui, je n'allais pas finir sans toi. Imaginez que ce soit votre femme, votre souci, ou votre fardeau. Et il y en a. Vous pouvez passer votre temps comme ça. Et vous portez votre fardeau. Seigneur, je t'apporte mon fardeau. Seigneur, je t'apporte. Et Jésus dit, mais décharge-toi. Oui, Seigneur, je me décharge. J'en peux plus, Seigneur. Mais je m'en décharge. Et Jésus dit encore, mais décharge-toi maintenant, t'as pas compris. Oui, ça fait le 50e dimanche. Seigneur, je me décharge. Et tu te décharges pas, tu vas mourir avec le fardeau. Va à la croix, dépose-le. Là, tu repars libre. Libre. Libre, déchargé, mon frère, ma soeur, décharge ton fils, décharge ta fille. Heureusement que c'est pas la maman Suzanne qui doit porter le papa Jean, hein. Décharge ton fardeau. À qui? À lui. Et ta souffrance est peut-être profonde, et peut-être l'absence d'un être cher qui vient de mourir est difficile à vivre. Et mon frère, ma sœur, même nous, enfants de Dieu, nous ne remplacerons jamais l'être cher qui est parti. Mais je veux te dire, viens Jésus. Dis-lui, Seigneur, tu sais pourquoi tu as repris la personne que tu as reprise. Tu sais tout. Tu sais combien il, elle, me manque maintenant. Tu sais combien je me sens seul sans lui. Mon âme est fatiguée, chargée. J'ai plus goût à rien. Mais c'est toi qui m'invites ce matin et qui me dis, viens.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.